Ces jeux courtois de plus en plus évidents agaçaient Andreas, qui ne manquait jamais de les mettre mal à leur aise en lançant ici et là un « Il serait peut-être temps que vous deux vous emboîtiez pour de bon. Un « Ne me dites pas que vous attendez le mariage » ou un « Je vais finir par croire que vous ne savez pas comment vous y prendre, et s'il le faut, je veux bien me dévouer à vous montrer. » Malgré les humeurs d'Andreas, cette drôle de compagnie s'amusa quelquefois. Car il y avait désormais entre les trois voyageurs des liens si solides qu'aucune force fût-elle surnaturelle, n'eût su les dénouer. Quand ils étaient ensemble, c'était comme s'ils étaient seuls au monde, car personne sur Terre n'eût pu comprendre ni même deviner la puissance de leur attachement. Depuis Marseille, ils reprirent les routes de France, et ils perpétuèrent cette habitude de ne prendre que deux chevaux, les deux jeunes gens montant le même, comme de bien entendu. Ainsi, après une longue chevauchée pendant laquelle il leur arriva encore moult aventures que nous conterons peut-être un autre jour ailleurs, au milieu du mois de septembre de l'année 1313, nos trois aventuriers étaient en cette région que l'on appelle la Beauce, qui est au sud-ouest de Paris, et alors Andreas s'enferma peu à peu dans un mutisme dont la profondeur finit par inquiéter ses compagnons. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, il ouvrit la bouche. Mais ce fut seulement pour leur dire « Ce soir, mes enfants, nous arriverons à Étampes, où je dois tenir une promesse que j'y fis il y a très exactement 7 mois. » Puis il s'effaça de nouveau dans son silence jusqu'à leur entrée dans la ville. Là, ils prirent une chambre à l'hôpital Saint-Antoine. Et c'est en retrouvant ces lieux où ils avaient déjà séjourné que Robin comprit ce que son maître voulait y faire. Dès lors, il témoigna à l'apothicaire une douce bienveillance et l'aida à accomplir son dessein. Le père Gineste, qui dirigeait toujours les lieux, manifesta une authentique joie à les revoir et leur offrit sa plus belle chambre au sommet du bâtiment. « Alors, ce pèlerinage, demanda-t-il, vous a-t-il comblé ?»« Bien plus que nous ne saurions vous le dire, mon père, répondit Andreas amusé. La nuit n'était pas encore tombée quand ils se rendirent tous trois à la prévôté où ils demandèrent à être reçus par un lieutenant. Celui-là les fit attendre longuement, comme cela se fait beaucoup au royaume de France dès lors qu'on a affaire à l'administration. Quand enfin le dit lieutenant daigna les recevoir, Andreas, bien qu'il y eût peu de chance que l'ordonnance royale demandant son arrestation fût encore d'actualité, se présenta de nouveau sous le nom de Thomas Rocksek. « Et quelle urgence y a-t-il à me voir à une heure aussi tardive ?» demanda l'antipathique préposé. « Nous cherchons quelque information au sujet d'une femme qui fut assassinée dans les rues des Temples le 12e jour de mars dernier. »« Je me souviens de cette histoire. »« Et alors ?»« Nous aimerions savoir si elle a été enterrée. » Le lieutenant sembla trouver la chose amusante. « Enterrée ? Puis-je savoir quel lien vous avez avec cette femme ?» demanda-t-il d'un air presque moqueur. « Elle était ma sœur, » mentit Andreas. « Votre sœur ? Une prostituée ? Les prostituées n'auraient-elles point le droit d'avoir une famille ?» répliqua l'apothicaire qui commençait à s'agacer. « Si, si, bien sûr. Alors, a-t-elle été enterrée ? Les putains dont personne ne réclame la dépouille sont jetés à la fosse commune, monsieur. » Comme le recommandent tant la loi que les règles de l'hygiène. » La figure d'Andreas se tendit durement. Le fut-elle donc ? Assurément. Vous ne pensez tout de même pas que la ville d'Étampes allait lui offrir un caveau de marbre, avec des ornements et en épitaphe, si j'y une pute ? L'apothicaire lutta pour conserver son calme. Puis-je savoir dans quelle fosse ? Mon pauvre ami, je ne m'en souviens plus. « Eh bien, cherchez, s'il vous plaît. » Le lieutenant poussa un soupir d'exaspération, puis, dévisageant longuement Andreas, il dut lire sur la figure de celui-ci une détermination et une animosité si grandes qu'il finit par se lever et dire d'un air las « Soit, je vais aller voir dans les archives. » Il revint quelques instants plus tard et leur apprit que Magdala avait été jetée le 15 mars 1313 dans la fosse commune de la collégiale Notre-Dame-du-Fort. Ils le remercièrent sans conviction et sortirent de la prévôté pour se rendre sur le champ à l'église susdite, où, après moult recherches, ils finirent par trouver le chanoine. Vous n'y